Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville.
Cette analyse suit le développement chronologique des événements. C'est donc une narration analytique, si vous voulez. Mais je crois qu'on reste plus près de la réalité en procédant de la sorte. Et le support de cette narration, c'est donc le Zhijunti Wenlu, c'est-à-dire cette chronique contemporaine et qui est en grande partie un témoignage direct centré sur le déroulement des événements à Suzhou, ou plutôt vu de Suzhou, puisque l'auteur, dont nous ne connaissons pas l'identité, est un habitant de la ville. Encore qu'il signale au passage plusieurs de ses déplacements autour, enfin dans la région. Comme j'y ai déjà plusieurs fois insisté, l'intérêt et l'avantage du Zhijunti Wenlu, et nous en avons vu d'ailleurs plusieurs exemples, c'est que c'est un texte qui introduit une perspective, et je dirais une sensibilité très différente de ce que nous livrent les sources historiques conventionnelles. Dans les sources conventionnelles, c'est-à-dire d'abord les histoires dynastiques et puis ensuite tous les genres qui sont dérivés des histoires dynastiques, y compris les monographies locales, dans les sources conventionnelles, donc, le point de vue le langage de ceux sont ceux des gens de pouvoir, c'est-à-dire de l'élite bureaucratique et de l'élite lettrée qui sert de vivier à l'élite bureaucratique. Et ceux qui n'appartiennent pas à cette élite, c'est-à-dire le reste des personnes concernées par les événements, n'apparaissent jamais que comme une masse anonyme, ces gens qu'on appelle le peuple, et leur comportement, aussi bien que leurs activités, qui sont volontiers décrits comme irrationnels et ignorants, sont jugés à l'aune de la conception orthodoxe de l'ordre social et des relations entre gouvernants et gouvernés. Or, dans le Zhijunti Wenlu et dans les textes du même genre, et il y en a beaucoup pendant la période de transition entre les Ming et les Qing, nous avons accès à une perspective assez différente. En effet, dans ces textes, et cela même si leurs auteurs, qui sont des lettrés, mais souvent des petits lettrés, continuent de s'exprimer avec les préjugés de la classe dominante, dans ces textes, le peuple est un acteur essentiel, un acteur vivant, et je dirais aussi un acteur multiple. C'est-à-dire, ça n'est pas du tout la masse indifférenciée dont parlent les textes bureaucratiques, dont parlent les textes historiques conventionnels. Un acteur multiple, donc, et qui réagit à sa manière, qui prend des initiatives, des initiatives qui sont souvent désordonnées, certes, mais en tout cas qui restent rarement passifs. Quant aux difficultés extrêmes auxquelles sont en butte les gens ordinaires pendant ces années terribles de la transition dynastique, nous pouvons nous en faire, toujours dans ces textes, une idée assez concrète, au-delà des formules habituelles, et nous allons d'ailleurs le voir tout de suite. Et à ce sujet, il faut reconnaître que les auteurs manifestent une indéniable empathie qui, là encore, va au-delà du discours conventionnel sur ce qu'on appelle, dans les ouvrages officiels, les souffrances du peuple, Minku. Après tout, ces gens qui écrivent ces textes sont eux-mêmes au milieu des événements en tant que témoins, ils les subissent comme les autres. Pour résumer ce que j'ai déjà exposé, ce cycle de très mauvaise conjoncture que nous sommes en train d'étudier commence en 1638. 1638, nous l'avions vu, est une année de sécheresse extrême au Jiangnan, à tel point est-il affirmé quelque part que les canaux qui sillonnent la ville de Suzhou sont à sec. C'est également une année où la région est victime d'un fléau dont l'occurrence est extrêmement rare au sud du Yangtze. Je fais bien sûr allusion à cette invasion de sauterelles venue du nord, massive, avec des nuées d'insectes qui franchissent le Yangtze pendant des jours durant. Ces sauterelles ont fait des dégâts, nous dit-on, c'est-à-dire qu'elles se sont posées dans des zones de culture, mais combien de dégâts exactement, c'est assez difficile à dire. En tout cas, le côté traumatique de cet événement apparaît assez clairement dans la source que j'ai citée, et il est d'ailleurs facile à imaginer, et j'en citerai plus tard des descriptions encore bien plus spectaculaires et je dirais encore bien plus dégoûtantes que ce qu'on trouve dans le Zhijunti Wenlu. 1638 est donc une année de sécheresse et de sauterelles, et nous avons aussi vu que la pression fiscale ne diminue pas pour autant, en particulier le fameux tribut en grains, dont la perception était supervisée par l'armée et était la source d'innombrables exactions. le pouvoir central ne veut simplement pas entendre parler de diminuer le montant des livraisons qu'il attend d'un contributeur aussi important que le Tiangnan, qui était en fait le premier contributeur de l'Empire pour le tribut en grain. Bien au contraire, ces livraisons, il les augmente, et cela suffit à déclencher ce que nous avions aussi vu, la réaction en chaîne classique, c'est-à-dire cette réaction au terme de laquelle le petit peuple des tenanciers, donc des locataires de la terre, se retourne contre les propriétaires qui refusent de diminuer les rentes sous prétexte que l'État refuse de son côté de diminuer leurs impôts. Autrement dit, la violence endémique pendant toute cette période, et que l'auteur du Tianzi Wenlu met bien en évidence, cette violence éclate au grand jour, et ce ne sont qu'attaques, incendies et pillages en ville et plus encore dans les campagnes où évidemment les moyens de répression sont moindres que dans les villes. La sécheresse continue l'année suivante, semble-t-il, encore que là, ce n'est pas très précis. Mais à la fin de l'année, la situation doit être suffisamment inquiétante de ce point de vue pour que les autorités de Suzhou, le gouverneur en tête, organisent des prières pour faire revenir la pluie comme elle l'avait déjà fait l'année précédente. Et ceci toujours sur un arrière-fond de tensions sociales menaçantes. Encore qu'à Suzhou, au moins, les autorités semblent bien avoir réussi à contenir la situation. L'année 1640, dans la description de l'auteur du Tianzi Wenlu, en tout cas, n'est pas une année de disette, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Huangshui, c'est-à-dire, pour traduire, donner le sens exact du terme, une année où les récoltes ne poussent pas. Pardon. Ou au minimum une année où les récoltes subissent des pertes sérieuses. Et en principe, il y a des barèmes pour mesurer ça, pour évaluer cela. Les deux récoltes de céréales de l'année, donc 1640, sont apparemment satisfaisantes, c'est-à-dire le blé d'hiver récolté en mai-juin, et ensuite la principale récolte de riz récoltée à l'automne. Et pourtant, on constate une très forte hausse des prix sur les marchés, une hausse dont la raison, classique à Suzhou et dans toute la région, dont la raison nous est donnée par l'auteur, c'est que les préfectures voisines, dit-il, c'est pas très précis, ont, elles, souffert de difficultés climatiques et qu'elles ont eu de mauvaises récoltes, si bien que les marchés de Suzhou ne sont pas suffisamment approvisionnés. Or, comme je l'avais rappelé, et c'est un fait essentiel, comme toutes les régions les plus développées de l'Empire, le Baiyangtze, donc le Jiangnan, est structurellement déficitaire du point de vue de son approvisionnement. Et pour cette raison, évidemment, les importations de grains ont une importance vitale. Et ceci, faut-il le préciser, est encore plus vrai des marchés urbains, surtout dans une grande ville comme Suzhou. En 1640, donc, les importations n'arrivent pas, les prix grimpent jusqu'à des niveaux quasiment de famine, et l'auteur évoque une progression inexorable qui les fait monter de 1,6, je cite tous ces prix parce qu'on reste dans la même tranche et c'est quand même assez parlant, de 1,6 donc à 1,8, 11, toujours 11 par cheu, c'est-à-dire par hectolitre de grain, puis à plus de 2 onces par cheu, ce qui jusqu'alors semble être le niveau le plus élevé cité dans la littérature. Ailleurs, l'auteur précise aussi que c'est à l'été, plus précisément à la fin de l'été, que la situation est devenue réellement explosive dans toute la région. En tout cas, malgré les efforts du gouvernement pour interdire la spéculation, des émeutes éclatent, plusieurs détenteurs de stocks sont attaqués et pillés, etc. Je n'avais en fait pas donné de détails là-dessus, mais ces détails sont parfois intéressants. Ainsi, dans les deux exemples particuliers que cite l'auteur du Tianzi Wenlu à Suzhou, les détenteurs de stocks sont des lettrés. Et ils possèdent en ville des ensembles, enfin il en décrit assez pour qu'on comprenne, qu'ils possèdent en ville des ensembles de greniers bourrés de grains, des réserves qui proviennent peut-être de leur rente, mais ce n'est pas dit, ou alors ce sont tout simplement des grains qu'ils ont achetés en période de bas prix et qu'ils n'entendent revendre que lorsque les prix seront à leur maximum. Le premier de ces personnages est un Tiansheng, c'est-à-dire littéralement un étudiant du collège impérial. C'est-à-dire en fait, sous les Ming, un étudiant confucéen, donc un régulier, qui a été promu étudiant donc, de ladite université impériale, ou qu'on traduit parfois encore par collège des fils de l'État, car c'est exactement c'est la traduction littérale de Guozhetian, c'est-à-dire cette espèce d'université qui se trouvait à la capitale, et dont une partie des étudiants étaient en effet sur place, mais une autre avait le titre, mais était dans leur province. Et d'ailleurs, bien que ce soit, ça n'est d'ailleurs pas précisé dans le texte, mais il n'est pas du tout impossible que le personnage en question ait gagné cette distinction, donc d'être un Tiancheng, en versant une contribution en argent au gouvernement, puisque c'était autorisé à la fin des Ming pour participer aux dépenses de l'armée. Et ce système de versement de contributions tout à fait légales et officielles en échange de titres, de distinctions académiques, s'est ensuite répandu, enfin est devenu quasiment permanent et s'est énormément développé sous les Qing, sous la dynastie suivante. Mais sous les Ming, c'est exceptionnel et c'est vraiment à l'extrême fin de la dynastie. Or, justement, donc, ce personnage a vendu en cachette, et est-il dit pour un bon prix, ce qui doit être probablement du blé d'hiver. Le terme est donc sous. Ce sont ces termes qui ne sont dans aucun dictionnaire, et donc c'est l'hiver. Et sous, c'est un terme. Sous, c'est un terme, ça veut dire du grain. Alors on ne sait jamais si c'est l'acception technique du terme, dans ce cas ce serait du millet, ou si c'est un terme général pour dire grain. Donc sous est probablement du blé d'hiver. En tout cas, il a vendu cela à un marchand de Huizhou, qui était une préfecture du sud de l'Anhui, fameuse pour ses dynasties de marchands qui opéraient dans toute la Chine. Et si vous avez toujours sous la main la carte que j'avais distribuée la première fois, c'est-à-dire la carte de localisation du Jiangnan, vous verrez Huizhou en bas au milieu, qui est donc dans la partie tout à fait sud du Anhui. Les marchands de Huizhou sont une grande institution pendant les derniers siècles de l'Empire. Donc, il a vendu en secret et à prix élevé du grain à un marchand de Huizhou. Mais ça s'est su, et une foule en colère est venue littéralement nettoyer ses greniers. Quant au second personnage, dont il est question dans le texte, c'est lui, il a un rang beaucoup plus élevé, puisqu'il est titulaire de l'examen provincial, ce que nous appelons parfois un licencié, donc juste en dessous de docteur. Et dans son cas, ce ne sont pas seulement ses greniers qui sont pillés, mais également le trésor de guerre qu'avait accumulé sa famille, où on était fonctionnaire de père en fils, sous forme de métaux précieux, de joyaux, de vaisselle de valeur, de monnaie, de vêtements précieux, etc., pour une valeur, affirme l'auteur, de plusieurs centaines de milliers d'onces. Donc un trésor colossal qui a été complètement nettoyé par les pillards. Et le personnage en question avait appelé des soldats qui avaient une certaine influence, avait appelé des soldats à la rescousse pour protéger ses biens, mais les soldats s'étaient joints au pillage. Nous en étions donc arrivés là, et j'avais quand même eu le temps de mentionner le fait que l'année 1640 est une année de troubles et de conflits sociaux extrêmement violents dans toute la région, et pas seulement dans la ville de Suzhou. Le Qijun Qiwenlu donne des détails sur plusieurs localités, en particulier sur Wujiang, que vous pouvez aussi voir sur la carte, sur Wujiang, qui est immédiatement au sud de Suzhou, sur Wuxi, sur le Grand Canal, au nord cette fois-ci de Suzhou, et aussi à Qingpu, ce qui est beaucoup plus à l'est. Qingpu est une des sous-préfectures de Songjiang, donc tout à fait dans l'est du delta, où l'auteur nous dit qu'il se trouvait à ce moment-là, c'est vraiment un témoignage, ou plus précisément qu'il se trouvait dans une bourgade en dehors de la ville, et là, il affirme avoir vu de ses propres yeux les paysans se mettre en bande pour aller obliger les riches à leur vendre des grains à prix réduit. Et là, je mentionne quand même le terme qu'on lit partout, je ne pense pas l'avoir déjà indiqué, pour ces ventes à prix réduit, ou littéralement à prix égal, donc ping, donc c'est ping tiao. Pardon. Ping tiao. Pinkao peut être une opération faite, comme dans ce cas, c'est sollicité dans ce cas, par des personnes privées qui détendent des stocks, mais c'est également une opération publique qui, sous les Qing, était tout à fait régulière. Donc, les gens se mettent en bande pour obliger les riches à leur vendre du grain, et l'auteur ajoute, exactement comme à Suzhou, alors qu'on est assez loin de Suzhou. Et il ajoute d'ailleurs que, c'est un détail, que les vieux affirmaient, donc toujours à Qingpu, que ça s'était déjà passé comme cela en 1580. Et je suppose que c'est cette date de 1580, exactement 60 ans avant 1640, donc un cycle complet de caractère cyclique, je suppose que c'est ça qui explique la remarque de l'auteur comme quoi, ou plutôt des vieux, des vieillards qui lui parlent, comme quoi c'est le destin qui a voulu cela, donc une sorte de retour cyclique des mêmes incidents. Ces émeutes de la faim, ou plus exactement dans le cas présent, ces émeutes contre la cherté, sont en partie déterminées par une sorte de ressentiment de classe, de haine des pauvres contre les riches qui continuent de spéculer sur leurs réserves en refusant d'en vendre une partie à prix réduit à leurs compatriotes. C'est un fait que, dans certains cas, les textes, et ce sont des témoignages, je le rappelle, les textes évoquent une sorte de violence indifférenciée et de violence surtout spontanée. À propos de Wu Tiang, par exemple, l'auteur parle des gens du peuple qui prennent les armes et se soulèvent en masse, littéralement comme un essaim d'abeilles, Feng Qi. Il en parle en disant qu'ils se soulèvent, qu'ils agissent collectivement sans s'être préalablement concertés. Oui, oui, il y a le tronc, et je trouve cette expression parlante. Donc ils ne se sont pas concertés, ils n'ont pas fait une sorte d'alliance, et pourtant, ils sont tous ensemble à participer aux mêmes attaques. Il décrit les choses à Wu Tiang dans ce cas, mais je reviendrai dans un instant sur le cas de Wu Tiang. Dans le cas des attaques contre deux accapareurs dans la ville de Suzhou, dont j'ai parlé à l'instant, l'un des deux a été désigné à la vindicte populaire par une dénonciation. Nous avons vu qu'il avait vendu en secret et pour un bon prix des grains à un marchand étranger à la ville qui s'apprêtait donc à les exporter en contravention formelle avec l'interdiction édictée par les autorités. De l'autre accapareur, en revanche, celui dont les trésors accumulés par des générations de fonctionnaires ont également été pillés, en plus du grain, de l'autre, il nous est simplement dit qu'il était extrêmement connu pour sa richesse. Autrement dit, c'était une cible toute désignée pour la foule anonyme des pauvres sans moyens de subsister, des Wulai, donc des gens sans moyens de subsistance, mais Pintion, donc très misérable. C'est ainsi que sont décrits les manifestants dans le texte. Il était une cible toute désignée pour ces gens, mais il n'est pas pour autant précisé que ce personnage souffrait d'une réputation particulière d'égoïsme et qu'il ait donc été victime de son impopularité. Mais c'était peut-être malgré tout le cas, même si nous n'avons pas d'éléments pour le savoir. En revanche, il y a certains incidents où c'est dit explicitement. Et je pense là à un paragraphe où un personnage en fait reçoit, si je puis dire, la rétribution de son impopularité. Je pense à un paragraphe du Zijun Tiwenlu qui est consacré à un grand notable de Wuxi, un nommé Ma Shiqi, qui était un ancien membre, est-il dit, de l'Académie Hanlin. Donc c'était l'élite des fonctionnaires métropolitains. Donc Ma Shiqi. C'est Shiqi. Ma Shiqi. Donc qui était un ancien membre de l'Académie Hanlin. Et nous savons par ailleurs, parce que ce Ma Shiqi a une biographie dans l'histoire officielle des Ming, dans le Mingshe. Nous savons par ailleurs qu'il a exercé des fonctions relativement proches du trône, ou plutôt de la famille impériale, d'abord au palais de l'héritier présomptif, mais ensuite, dont il était en quelque sorte secrétaire général, mais aussi comme émissaire auprès de plusieurs de ces princes Ming qui étaient apanagés dans les provinces. Cela étant, son plus grand titre de gloire, a posteriori, en tout cas dans sa biographie officielle, c'est apparemment son suicide héroïque au moment de la prise de Pékin par le rebelle Li Zicheng en 1644. Lorsque Ma Shunxi apprend la disparition de l'empereur et qu'on lui dit que le prince héritier, dont il avait donc la charge, a été capturé, il s'étrangle de ses propres mains après avoir, si je puis dire, supervisé le suicide de ses épouses, plutôt que de les laisser tomber entre les mains des rebelles. Ma Shunxi est donc un exemple en quelque sorte canonique de ces fonctionnaires loyaux, de ces fonctionnaires qui refusent de servir deux dynasties. Et plus tard, au XVIIIe siècle, lorsque les Qing décerneront des titres honorifiques à titre posthume à un certain nombre de sujets des Ming qui s'étaient distingués justement par leur loyauté et leur esprit de résistance, Ma Shunxi fera partie du lot. La biographie officielle de Ma Shunxi parle de lui donc comme d'un personnage d'une extrême intégrité. Elle ajoute aussi qu'il refusait les cadeaux quand on lui en offrait, qu'il aurait même refusé une aide financière, pourtant modeste, de 3 ligatures de pièces, de la part venant du juge préfectoral de Suzhou, qu'il a lui offert cette aide pour pouvoir enterrer dignement son père. Parce que, en plus, vertu supplémentaire, Ma Shunxi était pauvre. Je parle toujours de l'image qu'on a dans sa biographie officielle. C'est qu'en 1640, en effet, Ma Shunxi venait de perdre son père, donc, et qu'il était donc retourné à Wuxi pour observer le deuil réglementaire. Et voilà ce qu'il rétorque au juge préfectoral lorsque celui-ci lui offre de l'aider. Il répond « Suzhou souffre de famine. Si on garde cette somme, elle pourra servir au secours. » Donc, un modèle d'éthique et de dévouement à la communauté, et c'est, encore une fois, ce que nous propose cette courte biographie ultra-conventionnelle tirée du Mingxi, c'est-à-dire de la source supposée être l'autorité ultime sur l'histoire des Ming. Or, l'image que nous donne le Xi Zhen Wenlu du comportement de Ma Shunxi est beaucoup moins édifiante. C'est celle d'un notable local d'une honnêteté douteuse et, selon toute apparence, détestée par la population. En effet, le paragraphe consacré à cette affaire nous informe de façon un peu cryptique que Ma Shunxi avait l'habitude d'envoyer des pots de vin au magistrat local, sans préciser pourquoi, et que l'opinion publique en était extrêmement mécontente. Et il est tout à fait possible que ces pots de vin servaient à désamorcer des accusations en justice qui visaient donc Ma Shunxi, et ce serait là un exemple assez typique des arrangements entre fonctionnaires locaux et grands notables. Et dans l'anecdote en question, Ma Shunxi est appelé Ma Huan, donc c'est vraiment un grand notable, c'est-à-dire le notable, le mot Huan, qui signifie aussi fonctionnaire, désigne plus spécifiquement dans ce genre de contexte les fonctionnaires en retraite ou en congé de deuil, etc., qui résident chez eux et qui étaient vraiment considérés comme la crème de l'élite locale. Donc, ça pourrait très bien être un exemple typique de ces arrangements entre grands notables et fonctionnaires locaux, et c'est d'ailleurs un peu ce que suggère la suite de l'histoire. En effet, à en croire l'auteur du Qi Zhen Qi Wenlu, à l'été 1640, donc à un moment où la situation alimentaire dans la région est devenue excessivement tendue, à ce moment-là, donc, le magistrat de Wuxi remet à Ma Shunxi une somme de 211 onces d'argent avec laquelle il est supposé acheter du grain pour le revendre à prix réduit à la population. C'est d'ailleurs une somme assez modeste pour ce genre d'opération. Mais Ma Shunxi tarde à l'utiliser, il ne fait rien, il garde l'argent, et ses concitoyens commencent à s'énerver sérieusement. Tabouping, je crois que s'énerver sérieusement est une exacte traduction de cette expression. Et ce qui se passe ensuite suggère en effet qu'il existe entre les habitants locaux et Ma Shunxi un contentieux assez lourd. La foule se réunit dans un endroit qui n'est pas du tout neutre. Elle se réunit au Chenhuang Miao, c'est-à-dire au temple du dieu de la ville. le dieu lui-même s'appelle le Chenhuang Shen et son temple, c'est donc ce qu'on traduit parfois par dieu des murailles et des fossés. Pardon. Chenhuang Miao. Chenhuang Miao. Donc, et ce lieu était celui donc où on vénérait la divinité tutélaire de la ville. Et toutes les capitales administratives en Chine avaient un Chenhuang Miao. C'était un lieu public, donc, avec une très forte charge symbolique. Donc, la foule se réunit là, et là, les manifestants rédigent une liste de 17 affaires, il faut comprendre 17 affaires judiciaires, où Ma Shunxi s'est comporté de manière illégale, car ils veulent, bien sûr, le mettre en difficulté. Un esclave de Ma Shi avant de l'affaire et court le prévenir, et Ma Shi réussit à faire capturer deux meneurs par ces gens avec l'intention de les déférer à la justice pour les faire sévèrement punir. La foule se rend alors à sa résidence et, comme il refuse de relâcher les deux hommes, elle y met le feu. Et lorsque Ma Shi est contraint de sortir parce que sa maison brûle, il se fait battre, littéralement, il se fait abîmer la figure, exactement ça, pour eux, pas mienne, hein, et on l'oblige à rédiger une confession et à y apposer son sceau et sa signature et à promettre qu'il n'ira plus en justice, sans quoi ses adversaires produiront la confession. Et d'après le texte, il faut un mémoire à l'empereur, dont l'auteur n'est d'ailleurs pas précisé, pour que l'affaire finisse par se tasser. C'est une anecdote, mais c'est une belle anecdote, et en tout cas c'est un exemple typique où l'on voit les tensions et les conflits entre certains grands notables et la population exploser à la faveur d'une crise de subsistance lorsque les notables en question regimbent à venir en aide à leurs concitoyens défavorisés. Et cet exemple n'est pas du tout isolé. Comme je le signalais tout à l'heure, parmi les localités dans lesquelles il signale des troubles sérieux pendant cette année 1640, l'auteur du Cijun Cijunlu mentionne Wujiang. Je n'ai pas écrit les noms chinois de tous ces endroits dont vous avez les... Enfin, c'est quand même un Wuxi tout à l'heure. Non, ce n'est pas ceci, en fait. Si, c'est celui-là. Donc, Wuxi, Wujiang. Et puis, j'ai cité tout à l'heure Qingpu. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous sommes de nouveau à Wujiang, qui est une riche sous-préfecture donc située, comme vous le voyez sur la carte, immédiatement au sud de Suzhou, sur le Grand Canal et sur la rive orientale du lac Tai. Et c'est une sous-préfecture, soit dit en passant, dont la position dans le dispositif hydraulique d'irrigation et de drainage que j'ai décrit ces dernières semaines, dont cette position est cruciale, car c'est là que est contrôlée une des principales issues du lac, une sorte de grille de répartition qui est matérialisée par un pont de 72 arches, ou 64 suivant certaines sources, qui n'existe plus, je crois, un pont, un endroit donc où s'alimentent plusieurs des principales rivières qui drainent les eaux du lac. Et il y a d'ailleurs dans le Cijun Cijunlu, et en pleine famine, le récit d'une visite touristique de l'auteur et d'un de ses amis à ce pont. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'hydraulique, c'est l'esthétique. Mais la question n'est pas ici. En fait, il y a deux sources sur les incidents qui ont marqué l'année 1640 à Wujiang et qui en parlent de points de vue assez différents, mais je crois complémentaires. L'une de ces sources, c'est donc le Cijun Cijunlu dont je suis en train de parler, et l'autre, c'est l'autobiographie d'un habitant de Wujiang, sur laquelle je vais revenir tout de suite. L'auteur du Cijun Cijunlu ne parle pas à strictement parler en témoin, puisque c'est dans ce même paragraphe qu'il dit qu'à ce moment-là, il se trouvait à Qingpu, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Ce qu'il décrit, probablement parce qu'on le lui a raconté, c'est une situation que je dirais quasi insurrectionnelle, s'expliquant en partie par la vacance du pouvoir. Le poste de magistrat n'a pas de titulaire à ce moment-là et le fonctionnaire subalterne qui fait l'intérim n'a ni les moyens ni l'autorité pour réprimer efficacement les fauteurs de troubles. Toujours c'est Luan Min dont on parle tant et plus. Ce ne sont donc partout que incendies et pillages, et lorsque le gouverneur envoie l'armée pour sévir, la population s'enferme dans la ville pour résister. Comme le dit l'auteur, on en est presque arrivé à une grave rébellion. Qi Cheng Da Luan. Donc, c'est bien une situation quasi insurrectionnelle, comme je le disais. Et il faut que le préfet de Suzhou vienne en personne rassurer les insurgés et qu'il exige et obtienne le départ de l'armée pour que les esprits se calment un peu. Et la situation finit par se stabiliser pour de bon après qu'on a commencé d'organiser des ventes de grains à prix réduit, puisque tout était parti de là. Et l'auteur ajoute à la fin de ce passage, et c'est une indication qui se rapporte évidemment à ce qui précède, il ajoute que c'est en général après le milieu du sixième mois lunaire, c'est-à-dire en 1640, ça correspond avec le début du mois d'août, c'est en général après le milieu du sixième mois lunaire que l'on a vu les gens prendre les armes et se soulever sans s'être concertés. donc cette expression, que, cette notation que je citais tout à l'heure. Or, cette date, donc milieu du sixième mois lunaire, est exactement confirmée par l'autre source sur Wu Tian dont je parlais et sur laquelle je voudrais en fait faire une petite digression, c'est-à-dire m'arrêter quelques instants avant de reprendre le fil. Il ne s'agit pas cette fois-ci d'une chronique comme le Qijunti Wenlu, mais bien d'une authentique autobiographie. Et justement de l'autobiographie du personnage auquel le Qijunti Wenlu a été attribué à tort, comme je l'avais expliqué au début, à savoir Ye Shaoyuan. Yuan, justement, c'est Yuan, le nom propre. Parce qu'il se trouve que Ye Shaoyuan a été adopté pendant toute son enfance dans une famille Yuan, très connue d'ailleurs, fonctionnaire très connu, et qu'il a donc. Voilà, c'est ça, comme Yuan Shikai. Donc, Ye Shaoyuan, dans toutes les bibliographies, j'avais expliqué, comme je l'avais expliqué. Je ne sais plus, il y a 4 semaines, je crois, dans toutes les bibliographies et les catalogues de bibliothèques, le Qijunti Wenlu est attribué à Ye Shaoyuan, mais c'est une impossibilité. Mais j'avais quand même profité, quand j'en avais parlé, pour dire quelques mots déjà de Ye Shaoyuan, qui est né en 1589 et qui est mort en 1648. Et j'avais dit aussi un mot de son autobiographie qui porte le nom, qui est donc un Zhejuan Nianpu, une autobiographie chronologique, qui porte le nom de son. Enfin, qui est appelé d'après le nom social de Ye Shaoyuan, qui était Tian Liao. Donc, Tian Liao, Zhejuan, Nianpu. Zhejuan, Nianpu. Cette expression Zhejuan, Nianpu, nous l'avons déjà souvent rencontrée, ça veut dire simplement. Une autobiographie chronologique, un Nianpu écrit par l'auteur lui-même, par le personnage lui-même. Donc voilà le titre de cette autobiographie qui couvre la période allant de la naissance de Ye Shaoyuan l'année 1637, et ensuite il y a une suite qui s'appelle tout simplement Nianpu Xu, qui s'arrête exactement au jour d'août 1645, où l'auteur a pris la tonsure et est entré dans un monastère pour ne pas avoir à adopter la coiffure mandchoue et manifester de la sorte sa soumission au nouveau régime, comme les Chinois, et vraiment tous les Chinois, venaient d'être sommés de le faire, et avec la dernière brutalité. Et à ce propos, les réactions suscitées par cette mesure, je le rappelle, sont à mon avis un grand sujet dont je parlerai en fait l'année prochaine. Et Ye Shaoyuan a encore tenu après cela un journal pendant les 3 dernières années de sa vie. Et tous ces matériaux, l'autobiographie, la suite de l'autobiographie et le journal, sont restés à l'état de manuscrit et n'ont été publiés qu'à l'extrême fin des Qing. C'est un personnage assez remarquable et, en outre, la lecture de son autobiographie le rend plutôt attachant. Ce texte est en fait un magnifique exemple de ces nouvelles autobiographies de la fin des Ming dont j'ai déjà beaucoup parlé. Et si on le compare avec la nouvelle autobiographie dont j'ai le plus parlé, c'est-à-dire le Suépu de Xu Zhetiao, l'autobiographie de Ye Shaoyuan est en fait assez différente dans son écriture et aussi, je dirais surtout, dans son organisation intellectuelle, c'est-à-dire dans les contenus qu'elle privilégie, les sujets qu'elle privilégie. Mais on y retrouve quand même, dans l'une et l'autre, donc dans le Suépu et dans l'autobiographie de Ye Shaoyuan, on y retrouve quand même la même propension à parler de soi-même et à parler de ses émotions, la même franchise, le même regard critique sur la politique, encore que Xu Zhetiao en parle nettement plus, et aussi la même distance par rapport à sa propre carrière dans l'administration. Et là encore, je dirais que cette carrière administrative a une importance beaucoup plus grande dans le cas de Xu Zhetiao que dans celui de Ye Shaoyuan. Mais malgré tout, dans l'un et l'autre cas, donc, la même distance prise par rapport à cette carrière, même si cette distance n'exclut pas, chez l'un comme chez l'autre, un très grand engagement lorsqu'il y a urgence, lorsque les circonstances le demandent. Ye Shaoyuan était d'abord, et est toujours d'ailleurs, il est assez connu encore aujourd'hui des sinologues, en tout cas des spécialistes de la littérature, parce que justement il était d'abord et avant tout connu comme poète, bien que assez peu de ses œuvres semblent avoir survécu. Et même s'il a toujours vécu assez modestement, et même assez pauvrement à la fin de sa vie, c'était un membre éminent de cette élite lettrée qui était une des gloires de Suzhou, et où tout le monde se connaissait, ou était lié d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce qu'on participait au même cercle littéraire ou mondain, ou au même cercle politique parfois, que ce soit par camaraderie de promotion au sein du système des examens, et ça c'était une source de liens particuliers inépuisables, ou que ce soit par alliance matrimoniale ou encore de toute autre façon, puisqu'on se mariait à l'intérieur de ce milieu. Après plusieurs tentatives infructueuses, Ye Shaoyuan avait passé l'examen provincial en 1624 et tout de suite dans la foulée, donc l'année d'après, le doctorat en 1625. Mais il n'a eu qu'une carrière assez courte dans l'administration, une carrière dans laquelle le poste le plus important aura été secrétaire au ministère des Travaux publics à Pékin, comme Xu Zhetiu, comme je l'avais fait déjà remarquer. C'est un poste où Ye Shaoyuan est resté 2 ans et il s'y trouvait au moment de l'attaque mandchoue fin 1629 et début de 1630, à laquelle j'ai également plusieurs fois fait allusion. Et, enfin, pas une attaque directe sur Pékin, mais les mandchous étaient arrivés très très près. Et les pages nombreuses et détaillées que Ye Shaoyuan consacre à ce poste et qu'il consacre à sa participation au renforcement des défenses de la capitale et aussi, très intéressant, à ses responsabilités dans un des arsenaux de la ville, toutes ces pages sont d'un intérêt extrême et sont même assez excitantes, en tout cas pour l'historien. Mais après cela, Ye Shaoyuan avait demandé un congé pour rentrer au pays et s'occuper de sa vieille mère. Et en fait, même dans le feu de l'action, quand il s'agissait de sauver la capitale de l'Empire, il continue à dire de loin en loin qu'il a la nostalgie du pays et de sa famille. Et après cela, il n'avait plus jamais cherché à reprendre du service. Et de fait, sa vie familiale avait pour Ye Shaoyuan une extrême importance et elle est tout à fait centrale dans l'autobiographie. Il avait épousé en 1605 une poétesse distinguée et on avait alors beaucoup parlé dans la bonne société de Suzhou de ce mariage entre ces deux jeunes gens tellement talentueux et de plus bien nés. Ye Shaoyuan et sa femme étaient profondément attachés l'un à l'autre et ils n'ont eu pas moins de 12 enfants, 8 fils et 4 filles. Les filles, d'ailleurs, toutes des poétesses de grand talent, et publiées. Ye Shaoyuan perd son épouse et un de ses fils en 1635, qui est un peu l'année terrible dans son autobiographie, après une courte période d'extrême bonheur. Mais il y a eu d'autres deuils un peu avant. Ça, il a perdu sa fille préférée en 1633 ou 34, je ne sais plus. Et il y en aura encore d'autres par la suite. Et de façon frappante et remarquable, 2 des fils de Ye Shaoyuan sont morts en quelque sorte de dépression, ou à la suite d'une profonde dépression, parce qu'ils avaient raté les examens. Et ils les avaient ratés, d'après leur père, de façon tout à fait injuste. En tout cas, toute la fin de l'autobiographie est d'une tristesse infinie. Elle est noyée dans le chagrin et rendue plus pénible encore pour Ye Shaoyuan par un appauvrissement continu. Il est en effet obligé de vendre peu à peu son patrimoine pour payer les enterrements et pour faire vivre ce qui lui reste de famille, qui n'était d'ailleurs pas rien avec tous les enfants, les petits-enfants, les domestiques, etc. etc. En revanche, Ye Shaoyuan n'avait pas de concubine et il n'a jamais voulu se remarier. Il affirme quelque part, en tout cas, en 1640 justement, je crois, qu'il lui faut 10 she, donc 10 hectolitres quasiment, de riz par mois, environ 800 kilos de riz par mois. C'est donc une grande famille, pour pouvoir s'en sortir. Et tout ceci alors que la situation politique et économique dans la région ne fait que se détériorer. Et là, nous retrouvons notre sujet. Ye Shaoyuan appartenait à la société de Suzhou au sens large, mais ce n'était pas un résident de la ville de Suzhou. Il était donc de Wujiang, comme nous l'avons vu, et la résidence familiale n'était d'ailleurs même pas en ville, mais quelque part à la campagne, au bord d'un lac qui se trouvait plus au sud. L'autobiographie mentionne bien les désastres qui ont affligé le Jiangnan, enfin pendant la durée de la vie de l'auteur, dont j'ai parlé, à commencer par les pluies diluviennes et les inondations catastrophiques de 1608, mais elle ne les mentionne, je dirais, qu'en passant. Et elle en parle surtout pour leurs conséquences immédiates sur l'auteur, sur la vie de l'auteur et celle des siens. En revanche, les événements de 1640 et 1641 font un peu exception, en tout cas jusqu'à un certain point. 1640, donc l'année qui nous intéresse en ce moment, est, vous vous en souvenez, une année de très grande cherté, où les prix s'envolent littéralement, mais le Tzijun Tiwenlu, en tout cas, ne mentionne pas d'accident climatique en particulier. Il parle simplement d'inondations et de sécheresses dans les préfectures voisines, sans autre précision. En revanche, Ye Shaoyuan, lui, parle de pluies incessantes au cinquième mois lunaire, donc qui est à cheval sur juin et juillet en 1640, et il parle d'inondations, alors que Wuqiang est tout près de Suzhou, et nous avons vu que le Tzijun Tiwenlu ne parle pas du tout d'inondations. Bref, des inondations, et dans une lettre à un de ses cousins, Ye Shaoyuan va même jusqu'à dire que dans sa campagne, en tout cas, ces inondations sont presque légales de celles de 1608. Cela étant, les inondations de 1608, bon, on veut bien croire qu'en effet, c'était de très grosses inondations, mais celles de 1608, comme je l'avais dit au passage, étaient une catastrophe multiprovinciale, alors que celles dont parlait Shaoyuan sont à l'évidence très localisées. Mais il faut croire que leur impact est très fort à cause de la cherté même, de la cherté extrême des grains dans toute la région, et ce texte-là mentionne un prix de 1,611 par che. Peut-être aussi, dans cette lettre, Ye Shaoyuan en remet-il un peu sur la gravité des événements, car ce cousin à qui il s'adresse est un personnage qui dispose d'une certaine influence. Il s'agit d'un certain Ye Shaoyong, comme Ye Shaoyuan, mais simplement, comme ils étaient cousins, ils avaient partagé le même caractère. Attendez, Yong, c'est... Oui, Ye Shaoyong. Comme ils étaient cousins de la même génération, donc ils avaient le même caractère de génération, et le même patronyme, bien sûr, mais l'un était Yuan et l'autre était Yong. Ye Shaoyong, qui est très présent dans l'autobiographie, et que Ye Shaoyuan appelle toujours par son nom social, Tijou, peu importe. Les deux cousins, en tout cas, étaient d'autant plus proches qu'ils avaient passé des examens la même année. Simplement, la différence, c'était que Ye Shaoyong avait poursuivi une assez belle carrière qui lui avait apparemment rapporté pas mal d'argent. Et de fait, Ye Shaoyong se tourne très souvent vers lui pour lui emprunter de l'argent ou pour lui vendre des terres ou des maisons lorsqu'il est obligé de les réaliser pour payer justement l'enterrement de son xième enfant ou pour faire face à des crises comme cela. En 1640, Ye Shaoyong était président de la cour des banquiers impériaux du Guanglu à Nankin, la capitale secondaire des Ming. Donc, selon toute probabilité, il jouissait d'une sinécure très confortable et en même temps bien placée. Dans la situation telle que la lui décrit son cousin, donc Ye Shaoyuan, les paysans traversent ce qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire que si, heureusement, ils ont pu repiquer leur rizière avant l'inondation, à présent, ils ont le ventre vide et ils risquent de le rester jusqu'à ce que la récolte arrive à maturation. Car, et c'est là le détail important, car le grain est hors de prix et plus le prix du grain monte, moins les grandes familles se montrent disposées à en vendre à prix réduit dans leur voisinage. Autrement dit, elles spéculent aux dépens de leur communauté immédiate. Et ce que demande Ye Shaoyuan dans cette lettre à son cousin, c'est simplement, et plutôt naïvement, il faut bien le dire, qu'une directive des autorités centrales ou peut-être provinciales, une directive que pourrait inspirer Ye Shaoyong, imagine-t-on, encourage les riches à vendre du grain à bas prix au petit peuple ou à accorder des prêts. Car alors, dit-il, le petit peuple pourra continuer de travailler, autrement dit, la production ne sera pas interrompue, et les gens ne sauront trop chanter les vertus de leurs voisins les plus riches. En d'autres termes, l'harmonie sociale sera rétablie. Et en fait, Ye Shaoyuan ne dit pas exactement les riches. Il parle des grandes maisons, donc Xuxi, et un peu plus loin, ça ce sont des termes aussi très fréquents, Voilà. Et ailleurs, il parle de façon assez intéressante, c'est pas un terme si fréquent celui-là, des chefs de famille avec pour chef de famille, non pas Tiajang comme on voit souvent, mais Tiadou. Pardon. Voilà, tiens. D'où Duché. Et il faut entendre par de tels termes, surtout, non, bien sûr, Tucheux, mais également Tiadou, il faut entendre qu'il s'agit des chefs des grandes familles, des familles de grands notables riches. Autrement dit, Ye Xiaoyuan, dans cette lettre, exprime une vision paternaliste des choses, très répandue dans son milieu, en tout cas dans le discours. Je veux dire une vision dans laquelle les propriétaires fonciers protègent les tenanciers qui mettent leurs domaines en valeur, et qui sont en fait la source même de leur richesse. Et par-delà, c'est une vision dans laquelle les propriétaires se préoccupent du sort des communautés dans lesquelles ils vivent en général, et pas seulement de leurs propres gens. Et c'est d'ailleurs ce que suggère une autre lettre qu'écrit Ye Xiaoyuan au même moment à un certain Zhou Anqi, que je n'ai pas identifié, ou une lettre dans laquelle il invoque cette fois-ci l'institution vénérable des greniers communautaires. C'est de la façon dont on traduit Shezhang, donc les greniers de She, désignant vraiment une communauté cultuelle et sociale dans les cantons ruraux. Et ces Shezhang qui sont une institution vénérable parce qu'elle avait été créée ou en tout cas imaginée ou dessinée par Zhu Xi, c'est-à-dire le père fondateur de ce qu'on appelle chez nous le néo-confucianisme au XIIe siècle. Dans le modèle originel, dit Ye Xiaoyuan dans cette lettre, ces greniers, dont les réserves étaient, c'était des greniers qui fonctionnaient par système de prêts, donc les réserves étaient supposées tourner sous forme de prêts et de remboursements. Dans le modèle original de Zhu Xi, ces greniers pouvaient être mis en route grâce à une réserve de départ, un capital de départ, fourni par le gouvernement, par la préfecture. Or, se demande Ye Xiaoyuan, aujourd'hui que l'administration n'a pas les moyens d'agir ainsi, ne pourrait-on mettre au point entre personnes privées une formule pour mettre sur pied des greniers communautaires? Et ce à quoi il fait clairement allusion à cet endroit, ce sont ces associations charitables qui ont en effet déployé beaucoup d'efforts dans la région pendant la crise de la fin des Ming et sur lesquelles je reviendrai plus tard. Quoi qu'il en soit, l'égoïsme des riches, tel qu'il ressort très crûment de la lettre à Ye Xiaoyuan, quand il dit que plus le grain monte, moins ils veulent s'en défaire, cet égoïsme, c'est la négation même de cette société d'entraide où les riches viennent au secours des pauvres, et cela nous renvoie bien sûr au contexte de tensions et de violences toujours prêtes à exploser, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Et d'ailleurs, les choses ne tardent pas, et c'est pour ça que j'ai cité finalement tout ça. Nous apprenons encore, en effet, que le second destinataire de Ye Xiaoyuan lui répond qu'il ne voit vraiment pas trop quelle méthode on pourrait préconiser pour recréer des greniers communautaires. Quant à la réponse de son cousin bien placé, de Ye Xiaoyuan, elle arrive le 16 du 6e mois. Or, le 15, les pillages ont commencé. Et comme je le remarquais tout à l'heure, c'est exactement le même moment que celui qui est indiqué pour Suzhou dans le Tijun Tiwenlu. La description de cette situation que l'auteur appelle effrayante, la description est brève, mais elle est parlante. Partout, dit-il, les villageois escaladent les murs des résidences des riches en poussant des cris hostiles, à moins qu'ils n'y fassent irruption directement après avoir démoli les portails à coups de hache. Et parce que Ye Xiaoyuan ne dédaigne pas les allusions érudites, en quoi son style est d'ailleurs assez différent, et même très différent de celui du Tijun Tiwenlu, et même de celui du Xuepu, il marque le coup en s'exclamant, ce qui ne peut nous frapper, nous, qu'après avoir consulté le dictionnaire, en s'exclamant « Quelle différence avec l'incendie de la résidence du général Zhang Yi ?» Et on apprend donc, en cherchant dans les sources, que ce personnage, et comme le savait tout le monde, je suppose, à l'époque, ou en tout cas les lettrés, que ce personnage de l'époque des Wei du Nord, donc au 4e ou au 5e siècle, avait mécontenté la troupe et que celle-ci était venue incendier sa demeure, que son fils y était mort et que lui-même s'était fait sérieusement malmener, etc., etc. Donc voilà la référence qu'utilise Ye Xiaoyuan pour donner tout l'impact qu'il veut à sa description. Ceci donc, c'était à Wujiang. À Taizhang, pour donner un dernier exemple, Taizhang, qui est une autre sous-préfecture importante du Delta, donc que vous pouvez voir tout à fait à l'est, qui dépendait administrativement de Suzhou, Ce n'est pas un général dont la propriété est incendiée par la foule quelques jours après, mais, et ceci se passe quelques jours après, les événements décrits par, par Ye Shaoyuan, mais cette fois-ci, c'est un ancien grand coordinateur nommé Lu Wenxian, dont je ne vous écris pas le nom parce qu'il est totalement inconnu par ailleurs, qui est très riche et qui est très détesté à cause de son comportement abominable, est-il dit, et qui est donc le premier visé. Et plusieurs autres grands notables y passent les jours suivants dans une sorte de saturnale qui ne prend fin qu'avec l'intervention de l'armée. En tout cas, là encore, la coïncidence des dates est assez frappante puisque ces troubles ont éclaté la nuit du 20 du 6e mois, donc 5 jours après Wujiang, et à peu près au même moment qu'à Suzhou. Ces faits que je viens de citer sont extraits d'une chronique tout à fait passionnante des événements de la conquête mandchoue et des années suivantes dans la région, que j'avais mentionné l'année dernière à propos du grand épisode de répression fiscale de 1661. Donc, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent-ils. Ce texte est intitulé « Le Yen Tang Tien Wen Zha Ji ». Yen Tang est probablement le surnom, enfin le nom social de l'auteur. Zati, donc Yen Tang. Tian Wen, vous souvenez bien sûr de ce terme dont j'ai souvent commenté, les choses vues et entendues. Et Zati, c'est simplement des notes diverses. Et l'auteur, semble-t-il, est incertain. Wang Tiajun qui serait le Yen Tang du titre. Le poste d'observation de l'auteur de ce texte n'est pas une métropole comme Suzhou, mais une simple bourgade qui dépend donc de Taichang. Mais le style et le type de contenu sont assez comparables au Tijun Ziwenlu. Les deux textes ont été en fait publiés ensemble pour la première fois en 1911 dans cette collection dont j'avais parlé, le Tongche, l'histoire misérable. Cela étant, seules les trois premières entrées, dont celle que je viens de citer, dans le texte, portent sur la période antérieure à 1645. Elles sont un peu suspendues dans le vide avant que le récit commence vraiment au moment de la conquête mandchoue. Et donc, elles sont un peu déconnectées. Si bien que ces deux chroniques ne viennent se compléter l'une l'autre que pendant la période qu'elles ont en commun, c'est-à-dire entre 1645, qui est le début du Yen Tang Tien Wen Zha Ji, et 1653, qui marque la fin du récit du Tijun Tiwenlu. Et je me servirai donc du Yen Tang Tien Wen Zha Ji plus tard seulement, lorsque j'en viendrai aux événements de la conquête. En tout cas, ces pillages à Taichang, dont parle le Yen Tang Tien Wen Zha Ji, qui se déroulent en plein jour et qui visent les résidences de riches notables, sont, comme partout ailleurs, mis en rapport avec la hausse brutale des prix et avec l'agitation extrême que celle-ci entretient parmi les victimes de la famine. Car ici, contrairement à d'autres sources, à toutes les autres sources en fait, que j'ai citées, il est bien question de personnes, et explicitement de personnes souffrant de la famine. C'est-à-dire qu'on parle de Ti Jun ou de Ti Min, le mot Ti étant bien sûr la famine. Donc des gens qui souffrent de la famine, ou le peuple affamé, etc. Donc, c'est la seule source en 1640 qui emploie ce mot. Et le prix mentionné à l'occasion de cet épisode, à Taichang donc toujours, est en fait le plus élevé de tous ceux qu'on trouve cités pour cette même année 1640. Plus de 2 onces d'argent par che. Et pour cette raison, plus la mention explicite donc de la famine, je me demande si la situation n'était pas encore plus tendue à Taichang que dans le cœur du bassin, et cela ne serait pas vraiment surprenant pour la raison suivante. C'est que Taichang, avec Tiading et Shanghai, donc qui sont juste voisines, comme vous pouvez voir, est localisée sur cette zone légèrement surélevée dont j'avais parlé, le long de l'estuaire du Yangtze, c'est-à-dire la région du Jiangnan, dont une large proportion des terres est dédiée à la quasi-monoculture du coton. Dès lors, même les habitants des campagnes dépendent lourdement du marché pour leur consommation alimentaire. Autrement dit, on est dans une situation exactement inverse de celle d'une agriculture d'autosubsistance. Et pour cette raison, ils sont excessivement sensibles au mouvement des prix. Quoi qu'il en soit, la situation extrêmement tendue que je viens de décrire dans un certain nombre de sous-préfectures dépendant de Suzhou et dans la ville de Suzhou elle-même se prolonge apparemment jusqu'au début de 1641. Après quoi, comme on va le voir de suite, on bascule réellement dans la tragédie. Je dis apparemment parce que, en fait, les épisodes d'agitation et les émeutes dont j'ai parlé sont tous datés du 6e mois lunaire et nous ne savons pas exactement comment s'est passé le reste de l'année 1640. Mais ce qui est clair, c'est que à l'entrée de la 14e année de Chongzhen, donc en février 1641, les prix sont plus élevés que jamais. Le Zijian Tiewenlu à Suzhou donc, parle de 2,2 et même de 2,5 onces pour des grains qui sont d'ailleurs, là encore, assez difficiles à identifier. Apparemment, l'un, c'est un grain plutôt grossier, et l'autre, c'est de nouveau Dongsu, qui signifie peut-être blé. Mais surtout, on parle à présent et systématiquement de Timin, donc le caractère que je viens d'écrire, de victime de la famine, à tout propos. Et en ville, en tout cas, l'administration craint beaucoup les troubles que ces affamés sont capables de susciter, simplement parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Un paragraphe, par exemple, décrit un incident grave entre une troupe d'affamés et les moines, pouvons-nous supposer bien repus, d'un temple de la ville, connu pour sa prospérité, incident qui éclate à partir du moment où les moines refusent de continuer de se laisser extorquer des repas gratuits et des aumônes par une foule de plus en plus nombreuse et de plus en plus menaçante. Donc il y a une bagarre qui se termine par mort d'homme, trois meneurs sont décapités sommairement et une dizaine d'individus sont jetés en prison où ils subissent des traitements qui, nous dit l'auteur, étaient peut-être un peu excessifs, donc ils ont dû être torturés de façon épouvantable, mais après tout, il s'agissait de sévir contre une rébellion et on n'avait pas le choix. Il y a la répression donc, mais il y a aussi la prévention. Après avoir évoqué les prix très élevés que je viens de citer, le texte explique que le gouvernement a tenté de prévenir les troubles en mettant en place des centres de distribution de ce que j'appelle de bouillie ou de gruau, c'est-à-dire des zhouchang. Zhou est un mot qui signifie une bouillie de riz ou de toute autre céréale, et chang, c'est un terrain. Donc zhou. En mettant donc en place des centres de distribution de gruaux, exactement ce que nous appellerions des soupes populaires, dans six endroits de la ville, dont quatre temples. C'était une méthode tout à fait classique de secours, qui est exposée et commentée dans de nombreux manuels. Et c'était un peu aussi un dernier recours, dans la mesure où on visait des gens beaucoup plus atteints par les effets de la famine que ceux à qui s'adressaient, par exemple, les ventes de grains à prix réduit. Les gens, que le public, si l'on peut dire, des soupes populaires, c'était des gens qui souvent n'avaient même plus les moyens de préparer leur propre nourriture. Donc ça n'avait pas tellement de sens de leur vendre simplement du grain. On peut d'ailleurs constater que les choses ont été faites dans les règles, avec séparation des hommes et des femmes et distribution préalable de tickets. Mais l'auteur ajoute aussi qu'il y a trop d'affamés, qu'il est difficile d'aider tout le monde, et il cite l'adage souvent rencontré dans les manuels spécialisés dans la gestion de la famine, comme quoi il n'existe pas de méthode miracle pour combattre la famine. Tiuran ou Qi, c'est une méthode miracle, c'est une méthode magique, si vous voulez. On ne peut pas faire de miracle. Et il est incontestable que la faiblesse, pour ne pas dire l'inexistence, des moyens matériels dont disposaient les autorités, a été une des données majeures dans toute cette affaire. Une donnée qui explique, au-delà du caractère exceptionnel de la sécheresse qui s'est abattue sur le Tiangnan et ailleurs cette année-là, qui explique pourquoi celle-ci a eu des conséquences aussi terribles. Mais le gouvernement n'est pas absent. En tout cas, il l'est beaucoup moins qu'on a parfois tendance à le penser quand on évoque ces dernières années des Ming. Le gouvernement dispose encore de moyens de coercition et il reste aussi jusqu'au bout l'instance ultime de légitimation. La coercition, c'est bien sûr pour maintenir l'ordre, autant que faire se peut, mais c'est aussi, dans certaines circonstances, pour obliger les détenteurs de stocks à s'en défaire à des prix imposés pour participer à l'effort collectif et pour désamorcer les tensions. Et c'est ce qui avait été fait en 1640 à Suzhou, comme je l'avais mentionné la dernière fois. Quant à la fonction légitimatrice de l'État, nous verrons plus tard que la sanction et la protection des fonctionnaires locaux étaient sollicitées avec insistance par les responsables des associations charitables, qui étaient eux-mêmes des lettrés notoires, par les responsables des associations charitables qui tentaient, parfois avec un certain succès, de mobiliser des ressources et d'intervenir sur le terrain. Disons que le soutien de l'instance étatique était considéré comme indispensable par ces responsables, par les responsables de ces organisations pour que leurs efforts acquièrent en quelque sorte la légitimité d'un service public. Dans tous les cas, 1641 et 1642 sont sans aucun conteste les deux années terribles au Tian'an. Dans ce que j'ai exposé jusqu'ici, il a été question d'accidents climatiques, de sauterelles, de grandes chertés, de disettes, de tensions sociales et même d'affrontements, mais il n'a pas encore été question de famine, en tout cas pas dans l'acception maximale du terme. Le texte du Tijun Tiwenlu propose de ces deux années une vue relativement synthétique, encore qu'un peu désordonnée, et toujours vue de Suzhou, mais il me semble malgré tout que, malgré ces défauts, il me semble que le côté synthétique de cette vue l'emporte et que le mieux donc est de partir de là. Mais une fois cela fait, j'introduirai un certain nombre d'autres documents, c'est-à-dire d'autres témoignages, dont on verra qu'ils viennent compléter le tableau de façon parfois saisissante. En 1641, donc, la récolte de blé d'hiver au Tian'an, qui en temps normal met fin à la longue période de soudure du printemps et fait redescendre les prix alimentaires sur les marchés, n'arrive pas à maturité à cause de la quasi-absence de pluie au printemps et jusqu'en été. Elle peut donc être considérée comme perdue. Tous les canaux sont à sec dans la région et au cinquième mois, donc en juin, le sol est tellement desséché qu'il est absolument impossible de repiquer le riz. Les autorités et les grands notables procèdent trois fois pendant ce même cinquième mois et dans plusieurs temples bouddhiques et taoïstes de Suzhou, donc à trois dates différentes, à des rituels pour faire revenir la pluie. Mais s'il tombe bien quelques gouttes, elles ne sont absolument d'aucun secours. Le prix du riz monte à présent à 1,8 once et la panique commence à gagner la population. Donc là, je suis toujours la progression du texte. Pour la première fois sont mentionnés des morts de faim gisant le long des chemins. Et à tout cela s'ajoute une maladie épidémique qui frappe des familles entières et qui fait beaucoup de victimes. Et plus loin dans le texte, l'auteur reviendra là-dessus en expliquant que, du coup, le prix des cercueils a augmenté de plusieurs fois et que d'innombrables victimes ont dû être enterrées sans cercueil ou même simplement abandonnées, ce qui est tellement triste, dit-il, qu'il arrive à peine à le mentionner. Et à la fin du mois, ce sont les sauterelles, de nouveau, mais à Suzhou, on les voit seulement ou simplement passer dans le ciel, d'ouest en est, et de façon interminable, mais sans qu'elles se posent. Et en même temps, la valeur de la pièce de cuivre continue de tomber. L'auteur en avait parlé plusieurs fois pendant les années précédentes, et les prix de détail montent en flèche, ils donnent le prix des œufs, des choses comme ça. Une nouvelle fois, le gouverneur, accompagné de tous les fonctionnaires et de tous les étudiants confuciens de la place, ce qui fait beaucoup de monde, se rend à pied prier pour la pluie. Un gros orage éclate un peu après, le 19 juillet très exactement, mais c'est tout à fait insuffisant pour rendre son humidité au sol. Et le prix du riz dépasse déjà les 3 onces. Certes, il se remet à pleuvoir pour de bon cette fois-ci, quelques jours plus tard, ce qui ramène un certain calme dans les esprits, mais il est trop tard pour planter et à présent, il règne un froid automnal. Juste après cela, l'auteur, qui s'interrogeait, nous sommes toujours dans le Tijun Tiwenlu, qui s'interrogeait avec anxiété sur l'avenir, propose une sorte de bilan de l'année. Malgré la sécheresse, dit-il, on a pu repiquer un peu de riz, mais toujours en retard, et à l'automne, ce sont les sauterelles qui sont venues dévorer ces récoltes. Et ce qui avait échappé aux sauterelles a été en grande partie détruit par le froid, par la rouille et par un retour de sécheresse à la fin de l'automne. Mais ce sont des détails. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le chiffre moyen de la récolte 1641 que l'auteur donne en fin de parcours et qu'à ma connaissance, il est le seul à donner. D'après lui, la récolte de cette année-là, et je traduis littéralement la façon dont il le dit, n'atteint pas 3 ou 4 dixièmes, ce qui est toujours très vague. Est-ce qu'elle atteint 3 dixièmes ou pas, et 4 dixièmes, en tout cas, il faut entendre des dixièmes, ou des 10% chaque fois, des tranches de 10% par rapport à une récolte normale. Et c'est un fait que dans les réglementations qui seront formalisées plus tard sous les Qing, un taux aussi bas signifie une récolte catastrophique, qui donne droit donc à des secours, des exemptions et toutes sortes de choses. Pendant le premier mois de l'hiver, les prix sont toujours aussi élevés. On est toujours à 3 onces d'argent par cheu pour le riz blanc. J'avais parlé à un moment d'une sorte d'effet de surprise, du sentiment qu'avaient les habitants du Tian'an que de telles calamités, c'était pour les autres et que ça ne pouvait pas leur arriver. Et c'est bien ce qu'exprime l'auteur du Tijun Tiwenlu dans ses pages à de multiples reprises en disant « c'est incroyable, c'est tout à fait anormal. Autrefois, le Tiangnan était célèbre pour sa prospérité et sa beauté. Aujourd'hui, on tombe sur des morts de faim le long des routes. Les gens se nourrissent de fèves, je ne sais pas, d'odan, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire, et de balles de grains, ça c'est beaucoup plus classique. Les pauvres n'ont plus figure humaine, etc. etc. » Et à la fin, après avoir évoqué la pression fiscale qui ne fait qu'augmenter et qui contraint les fonctionnaires locaux à inventer de nouveaux tours de passe-passe pour faire cracher un peu plus les riches, l'auteur dit, je cite, « Les riches sont écrasés de corvées et d'impôts. La classe moyenne n'arrive pas à faire face et les pauvres sont dans les affres de la faim, les villages sont désertés. C'est la même chose dans les villages et dans les villes. Où est l'abondance d'antan ?» Et soit dit en passant, je trouve assez frappante cette mention de ce que j'ai traduit donc par classe moyenne, et qui dans le texte est simplement zhongzhen, les gens au milieu, si vous voulez, c'est-à-dire les gens qui se situent entre les riches et les pauvres. Alors qu'en règle générale, on ne parle que de ces deux dernières catégories, que des riches et des pauvres. Et un peu plus tôt dans le texte, l'auteur parlait déjà de ces zhongzhen, de cette classe moyenne, qui, dans les circonstances terriblement difficiles qu'il décrit, a du mal à se nourrir, alors que les pauvres, eux, ils meurent tout simplement de faim. Disons que cette notion tout à fait inusitée dans les textes chinois, autant que je sache, a accroché mon attention parce qu'elle semble confirmer les considérations que j'avais proposées l'année dernière sur l'existence au Tiangnan de ce que j'avais justement suggéré d'appeler une classe moyenne, plutôt prospère, économiquement active et se distinguant à la fois de l'élite lettrée et du petit peuple des gens ordinaires. En tout cas, l'auteur se demande comment, dans l'état d'épuisement auquel elle en est arrivée, la population du Tiangnan va réussir à passer le cap des mois qui viennent. Comme il le dit, la conjoncture est vraiment très critique. Et en effet, l'année 1642 va être encore pire, car l'impact des difficultés climatiques, qui ne cessent pas, même si elles ne sont pas aussi énormes, s'exerce à présent sur une population affaiblie et dénuée de la moindre réserve. Le nouvel an, donc quelque part en février 1642, se passe sous une neige abondante que les habitants de Suzhou considèrent comme de bon augure. Si bien qu'en dépit de la famine, la fête des lanternes, qui a lieu toujours au moment de la première pleine lune de l'année, est célébrée brillamment et dans un grand concours de population. Il y a même une telle foule que plusieurs personnes périssent piétinées. Mais la fête ne dure pas longtemps et le paragraphe suivant introduit une terrible nouveauté. Je le cite. Le cannibalisme, on avait entendu dire que ça existait au Shandong et au Henan, mais on ne savait pas trop s'il fallait y croire. Or, à présent, on en voit couramment partout à Suzhou, dans la ville et hors les murs. Et il évoque ces gens affamés qui vont, la nuit tombée, découper des morceaux de cadavres sur les fugitifs laissés sans sépulture le long des routes pour s'en nourrir. Et cela en dépit des interdictions formelles édictées par le gouverneur. Le printemps de 1642 est anormalement froid et humide, les gens n'ont rien à manger, ce ne sont partout que mendiants et fugitifs squelettiques et émaciés, et le texte décrit à présent une mortalité de famine massive. Chaque matin, et c'est la première fois qu'il l'a décrit dans l'ensemble de... c'est la première occurrence. Chaque matin, on ramasse, dit-il, plusieurs dizaines de cadavres au pied des murs du palais du prince Ming apanagé à Suzhou, et l'auteur ajoute qu'il a vu cela de ses propres yeux. Partout en ville, on peut voir des maisons abandonnées et tombant en ruine, et dans la campagne, les plus belles propriétés ne trouvent pas d'acquéreurs. Quand on pense au luxe passé de la ville et à la foule qui s'y bousculait, ajoute l'auteur, on réalise à quel point la maxime du livre des mutations, du Yijing, sur l'inversion des extrêmes se justifie. C'est Tai Chi, Er Fo, donc c'est une sorte d'inversion de signes, si vous voulez, du fait suprême. Donc on passe de la plus extrême abondance à la plus extrême pauvreté. Cela étant, la conjoncture semble s'inverser à l'été, car la récolte de blé s'annonce exceptionnellement abondante, ce qui fait tout de suite redescendre les prix. Mais les habitants de la région ne sont pas au bout de leur peine. C'est à présent un retour d'épidémie qui fait de terribles ravages, particulièrement dans les villages. Et du coup, le repiquage du riz est de nouveau compromis, et beaucoup de champs restent en friche, cette fois par manque de bras. Et cela aussi, l'auteur affirme l'avoir vu en personne pendant un déplacement à la campagne. Enfin, l'année 1642 se conclut, en tout cas dans le Tijunti Wenlu, par l'évocation de la grande fête bouddhique des fantômes, le 15 du 7e mois, à l'occasion de laquelle les notables de Suzhou convoquent des moines éminents et organisent des cérémonies dans trois monastères de la ville pour, comme on dit, nourrir les fantômes, de tous les malheureux qui sont morts de faim ou d'épidémie pendant ces deux années terribles. Admirable entreprise, s'exclame l'auteur, et l'on imagine que cette sollicitude des riches pour les pauvres, fût-elle posthume, ne peut que lui réchauffer le cœur après toutes ces manifestations d'égoïsme et tous ces conflits dont il faut reconnaître qu'il les a décrits d'ailleurs avec une indubitable honnêteté. Ce récit du Tsi-jen Tsi-wen-lu, au cours duquel s'intercalent d'ailleurs d'autres éléments sur la politique, sur les examens, ou, comme plusieurs autres auteurs du temps, plusieurs autres témoins, l'auteur se plaint de la corruption qui envahit tout à ce moment, ou alors de simples anecdotes. Donc, ce récit forme un ensemble assez cohérent, infiniment plus parlant, comme je l'ai souligné, que les sèches mentions des sources historiques habituelles. Mais il n'épuise pas tout, loin de là, ne serait-ce qu'à cause de sa perspective, malgré tout, très locale. On reste pour l'essentiel à Suzhou. Et je présenterai donc la prochaine fois d'autres témoignages, plus limités dans leur perspective, sans doute, mais qui nous feront voir un certain nombre de choses de beaucoup plus près. Et cela sera encore plus vrai avec les comptes rendus au jour le jour de certains chefs des organisations charitables dont je parlerai pour terminer sur ce sujet. Et j'ajoute une chose, c'est qu'avec cela, l'année sera finie, puisqu'il reste encore deux cours après celui-ci, et que donc, j'allais dire comme d'habitude, je n'ai pas tenu mon programme, puisque le contenu, disons, des parties, des choses dont je veux parler, j'ai parfois l'impression qu'il gonfle comme une éponge, et que du coup, je me trouve à reporter à l'année suivante des sujets que j'avais annoncé donc au début de l'année. Et en particulier, j'avais dit que je parlerais des réactions de la population à l'invasion mandchoue cette fois-ci, vu toujours à travers tous ces témoignages. Et en relisant encore les sources, tout ceci est tellement riche qu'il me faudra en effet, sinon une deuxième année entière, du moins une partie de l'année prochaine pour en rendre compte. Mais je crois que ça se cadrera assez bien avec ces témoignages tout à fait étonnants sur la famine. Pour terminer donc dans 15 jours. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.